Une école pour la vie, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Corinne Vivier
et Jean Bourriou, votre serviteur. Alors bonjour à tous, au sommaire de notre émission, ce sera plutôt consacré et ça va tourner autour de cette rentrée un peu spéciale du retour des vacances de la Toussaint,
et
suite
oui.
aux différents événements.
Oui, suite aux attentats, nous allons aller sur Dreux rencontrer Lucie Del Castillo, qui est professeure, et puis Madame Lafontaine, qui est chef d'établissement de l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul à Dreux.
Et pour commencer, on retrouve aussi le témoignage d'un élève du lycée Notre-Dame de Chartres.
À mes professeurs. Vendredi 16 octobre, je suis dans la voiture avec ma mère, la radio égrène des informations toujours aussi déprimantes. À vrai dire, je ne l'écoute que d'une oreille peu attentive. Toujours la même chose, crise sanitaire, crise économique, et tout à coup, j'entends les mots suivants. Un professeur décapité. Mon sang se glace, une boule me monte à la gorge, et je demande à ma mère si elle sait de quoi il s'agit. Elle me dit qu'elle vient de l'apprendre et que l'on va en parler. Je ne me sens pas bien physiquement et je suis au bord du malaise vagal. Nous rentrons à la maison et ma mère me relate les faits. Elle-même est choquée et se sent mal. On parle évidemment de ce que l'on ressent et je me rends compte qu'à ma tristesse se mêle une certaine colère. J'ai envie de crier mon désarroi. Ma famille m'apprend la tolérance, l'esprit critique, défendre mes idées en argumentant et savoir écouter le point de vue de l'autre, même si ses idées sont opposées aux miennes. Mes professeurs m'enseignent certes un savoir, mais aussi à analyser, argumenter et réfléchir. Et là, un professeur, M. Samuel Paty, est mort, assassiné, pour avoir enseigné les valeurs qui fondent notre République. La liberté, l'égalité et la fraternité. J'ai 16 ans et je n'en peux plus de toute cette violence. Mais une lueur d'espoir m'anime en ces moments si noirs. Comme le dit notre président, nous sommes le pays des Lumières et nous vaincrons l'obscurantisme. Et pour cela, vous, mes professeurs, êtes et serez toujours en première ligne pour porter la flamme de la connaissance, les Lumières de notre République. Nous résisterons ensemble, vous, mes professeurs, sachez que vos élèves vous soutiennent totalement. N'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas. Je finirai cette lettre par un seul mot, même si celui-ci paraît bien dérisoire, merci.
Bonjour Théo, on sent que une certaine émotion quand tu lis la lettre que tu as envoyée à tes enseignants. Pourquoi avoir écrit cette lettre? Pourquoi c'était important pour toi d'écrire cette lettre?
C'était assez important pour moi d'écrire cette lettre pour exprimer ce que je ressens, comment j'ai ressenti et également je me mets à la place des professeurs, c'est pas très facile en ce moment.
Tu as entendu ce message, cette information à la radio, comme tu le dis dans ta lettre, et tu as décidé tout de suite ou ça a mûri dans ta tête avant de vouloir écrire cette lettre que tu as envoyée à quel moment?
Je l'ai envoyée une semaine plus tard, je crois, le temps de l'écrire et également de réfléchir. Au début, je ne pensais pas forcément à ça, je pensais directement à ce qui venait de se passer, forcément. C'est qu'après, je me suis dit qu'il est important de soutenir les professeurs.
Et tu étais en colère au début?
Oui, j'ai senti une certaine colère, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est pas normal du tout.
Et certains professeurs t'ont parlé de cette lettre?
Oui, certains m'ont remercié. Ils m'ont dit que ça leur faisait du bien de se sentir soutenu par les élèves.
Alors tu dis dans cette lettre, tu défends une certaine valeur de laïcité. Pourtant tu es au lycée Notre-Dame en première et tu es dans un établissement catholique. Comment tu conçois la laïcité et le fait d'être dans un établissement catholique? Je crois que tu étais aussi élève avant d'aller au collège Sainte-Marie.
Oui, j'ai été dans le privé puisque je suis catholique. Mais la laïcité est importante dans notre pays. La religion doit être à part.
C'est comme ça que tu le sens?
Oui.
Et est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on le vit? On le vit correctement dans notre pays? Est-ce que on respecte cette religion un peu à part et au lycée aussi?
Oui, je trouve que la religion est quand même assez à part du système de la République.
Et même au sein de ton lycée?
Au sein du lycée aussi.
On te permet quand même de suivre des cérémonies religieuses, mais on te les impose ou on te les impose pas?
Non, on peut bien sûr suivre des cérémonies religieuses, mais ça n'est imposé à personne.
Alors, il y a eu un deuxième événement pendant ces mêmes vacances de la Toussaint. C'est l'attentat à Nice, dans une basilique. Comment tu l'as ressenti?
C'est vrai. je me suis dit, oh non, pas encore. En fait, j'étais également très triste. Surtout, c'est le lieu également très symbolique, une basilique. En principe, normalement, c'est pas un endroit... c'est jamais un endroit pour tuer des gens. Mais c'est un endroit de prière, de confession. C'est important de pouvoir normalement s'y recueillir, mais ces personnes qui voulaient s'y recueillir ont été tuées pour ça.
Et ça t'a ému aussi?
Oui, énormément. Mais j'avais déjà écrit la lettre avant et déjà envoyée. Mais c'est également quelque chose de très, très fort.
Si ça avait eu lieu plus tôt, tu aurais aussi joint cet événement à ce courrier?
Oui, bien sûr.
Comment tu as vécu l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty dans ton établissement? Comment ça s'est passé? Le jour de la rentrée, il y a eu un hommage officiel au lycée. Comment toi, tu l'as ressenti? Est-ce que tu as trouvé que c'était bien? Comment tu l'as vécu?
Je l'ai bien vécu. Les professeurs... Il y a eu beaucoup d'émotions, hein, notamment des professeurs qui ont pleuré pendant cette intervention. On a pu partager tous ensemble tout ce qu'on ressentait. C'était très important pour tout le monde, je pense.
Très bien. Et juste, petite question subsidiaire. Là, nous faisons l'interview avec des masques. Comment dans ton courrier, à un moment, tu parles de cette crise sanitaire? Comment tu la vis, toi, qui es jeune et qui a envie certainement de vivre ta jeunesse comme normalement?
Oui, c'est sûr, c'est très, très embêtant. Mais bon, on doit obéir. On est obligé de porter les masques, d'éviter de contaminer nous-mêmes et les autres.
Eh bien, Théo, je te remercie beaucoup d'avoir lu cette lettre que tu nous as tous adressée aux enseignants. Et merci encore. Et bonne continuation.
Merci.
Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint.
Alors, nous sommes aujourd'hui en communication avec Lucie Del Castillo, qui est professeure documentaliste au lycée de Quanon de Dreux et coordinatrice pastorale. Lucie, bonjour.
Bonjour Corinne.
Alors, merci d'être disponible pour nous ce matin afin de nous partager ce que vous avez mis en place et proposé à l'occasion de cette rentrée si particulière, hein, où vous avez dû accueillir professeurs et élèves suite aux différents attentats, hein, donc l'attentat de Samuel Paty et donc des trois personnes tuées à Nice. Donc, Lucie, est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler les réalités de votre établissement? Combien avez-vous d'élèves et d'enseignants?
Oui, donc le lycée de Quanon est situé à Dreux. Il a 320 élèves actuellement pour une équipe de 32 professeurs. Nous préparons à différents bacs professionnels. Au bac pro ASSP, sanitaire et social, bac pro animation, enfance et personnes âgées, bac pro métier de l'accueil, métier de la vente, du commerce, un CAP employé polyvalent de commerce et une classe de troisième prépa métier. C'est un lycée qui est très riche et intéressant de par sa mixité culturelle et cultuelle.
Donc, vous avez, au niveau de votre établissement, il y a eu la proposition de faire rentrer les élèves le mardi 3 novembre et donc une rentrée, un temps banalisé ou spécifique pour les enseignants le lundi 1er novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est vécu dans votre établissement?
Oui, tout à fait. Notre chef d'établissement, Isabelle Rocabois, a proposé à toute l'équipe pédagogique de se retrouver le lundi du retour des vacances pour deux raisons. La première étant de préparer le protocole renforcé qui avait été annoncé quelques jours plus tôt. Et la seconde, c'était pour un temps de préparation pédagogique pour l'hommage, comment l'aborder auprès des élèves. Elle a souhaité que les professeurs se rencontrent par atelier sur la journée pour préparer cette rentrée particulière.
Alors, quels ont été les temps forts de cette journée?
Donc, nous sommes divisés en plusieurs ateliers. L'atelier pour l'hommage a été mené, co-animé avec une collègue de français histoire géo et professeure d'éducation morale et civique. Je voulais juste revenir sur la première lecture qui avait été abordée lors de notre rencontre le lundi 2 novembre. On a choisi avec notre prêtre référent, le Père François, de lire le testament spirituel de Christian de Chergé, qui était un moine catholique en mission à Tibérine en Algérie et qui a été assassiné en 1996. Pourquoi lire ce texte? Tout simplement pour rassurer les professeurs dans leur mission. Le Père François a insisté sur le fait qu'il fallait garder en tête deux mots très importants, l'espérance et la paix. Cette journée a été aussi réalisée dans le but de désamorcer les peurs des collègues par des échanges afin de limiter l'anxiété et le stress que chacun pouvait avoir pour la rentrée du 3 novembre, essayer de rentrer dans un climat beaucoup plus serein.
Est-ce que vous avez réfléchi ensemble sur d'abord l'objectif de cet hommage et également peut-être au choix des mots, au choix des textes, vous nous en avez parlé, mais au choix des mots pour présenter aux élèves.
Comment l'adapter à tout type d'élèves ?
Voilà, c'est ça. Donc nous avons un public particulier de par notre situation géographique. On est enclavé entre plusieurs cités à Dreux. Donc il fallait adapter son discours à chacun pour que chacun le comprenne. Et on a vraiment essayé de respecter au mieux le choix des mots des professeurs. Les professeurs se sont réunis en 4 ateliers pour choisir les mots à dire, à ne pas dire, choisir des vidéos, comment aborder la liberté d'expression et le rôle de l'enseignement. Il y avait vraiment une volonté d'une décision collégiale pour cet hommage. La présentation a été faite en binôme. Les professeurs ne se sentaient pas forcément de le faire seul. C'est vrai que se sentir soutenu dans ce genre d'épreuve est très important. On a basé cet hommage aussi sur la solidarité.
Donc, audacieux que de prendre une journée complète, hein, c'est ça aussi l'intérêt de cette liberté éducative que nous avons dans l'enseignement catholique. Comment, après, à la fin de cette journée, vous avez appréhendé ou comment les enseignants ont pu repartir en se disant que le lendemain, l'accueil allait être plus facile avec les jeunes?
Donc, avec ma collègue avec qui j'ai co-animé l'atelier, nous avons réalisé un bilan de tout ce qui avait été dit par atelier en reliant les points, les similitudes et les différences des propos de chacun. Et il a été décidé que le temps de pensée et de recueillement se ferait donc de 11h à 11h30. On a insisté sur le fait que c'était vraiment un temps d'hommage, mais pas un temps de débat. Mm-hmm. Nous avons commencé par un bref rappel des faits, en choisissant de ne pas prononcer certains mots qui auraient pu heurter la sensibilité de nos élèves. Nous avons ensuite visionné une vidéo sur la laïcité et le vivre ensemble, et le respect des religions. Puis un point sur la liberté d'expression a été aussi proposé aux élèves, en rappelant que la liberté d'expression est un droit individuel inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous avons rappelé le rôle de l'école, des valeurs de la République et le rôle de l'enseignant, avant de leur faire écouter un extrait de la lettre de Jean Jaurès pour les instituteurs de 1888, comme nous le demandaient les instructions ministérielles. Cet extrait de la lettre a été lu par le rappeur Oxmo Puccino, ce qui a permis de plonger les élèves dans la lecture et l'écoute de cet extrait. Puis nous avons proposé à chacun une minute de silence en la présentant comme un symbole de non-violence qui lie des êtres humains au même moment pour la même chose, une minute de respect, une minute où l'on est en communion par la pensée pour les victimes. Et globalement, tout cela était bien respecté. Nous avons aussi proposé aux jeunes de se libérer par l'expression. Nous avons posé 2 boîtes à expression au sein du lycée. Et cette semaine encore, ils pourront déposer des mots, des dessins, des phrases pour nous faire connaître leur ressenti, leur état d'âme sur les événements passés.
Est-ce que vous avez déjà quelques réflexions, quelques retours de la part de ces élèves? Est-ce que aussi l'ambiance dans l'établissement a pu changer?
Oui, je pense que tout le monde attendait ce temps d'hommage il y avait, c'était assez, comme une pression, hein, qui était toute cette matinée du mardi 3 novembre. Et une fois l'hommage passé, je pense que chacun s'est senti soulagé, élève comme professeur. Quelques petits mots sont remontés. Celui qui revient, c'est vraiment celui de la tristesse. Ces événements ont beaucoup marqué nos jeunes et beaucoup se sentent tristes de voir ce qui se passe actuellement en France.
Lucie, merci beaucoup. On vous souhaite de continuer avec autant d'espérance et d'énergie. Et puis, peut-être, on se retrouvera pour des témoignages ou des expressions à venir. Voilà. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Florence Lafontaine, bonjour et merci pour ce temps que vous nous accordez.
Donc
vous êtes directrice de l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul à Dreux. Vous pouvez nous redire combien compte d'élèves votre établissement ?
Alors, c'est un ensemble scolaire qui compte une école, un collège et un lycée, donc un peu plus de 500 élèves à l'école, 800 élèves au collège et pratiquement 400 élèves au lycée.
Aujourd'hui, notre thématique est donc de revenir sur cette rentrée si particulière et si difficile qui a eu lieu donc le lundi 2 novembre suite aux attentats de Nice et de Samuel Paty. Dans votre établissement, vous aviez prévu le lundi 2 novembre une journée pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'organisation de cette journée, puisque au départ, les événements n'étaient pas prévus dans votre journée.
Effectivement, c'était un petit peu particulier pour nous, puisque depuis le mois de septembre, une journée pédagogique était prévue sur une thématique déjà travaillée en janvier l'année dernière avec l'ensemble des personnels enseignants et du corps des personnels d'éducation. Sur la thématique de la gestion des émotions et la gestion des conflits et des prises de parole entre collègues avec les élèves, avec les parents d'élèves, enfin voilà, tout ce qui fait relation dans un établissement scolaire. Et nous avions donc lundi une deuxième journée sur ce sujet en petits groupes avec des activités. Alors il est vrai que avec la problématique nouvelle des attentats, etc., finalement ça a été un moyen pour les équipes d'avoir un temps de préparation quand même un petit peu différent avec les formateurs extérieurs qui étaient là, qui au départ ne devaient pas travailler sur le mot attentat, qui ne devaient pas travailler non plus sur la difficulté que cela allait engendrer, mais qui ont décidé de se mettre à la disposition des collègues enseignants pour pouvoir amener les choses le mieux possible le lendemain, donc mardi matin, qui était la journée d'arrivée des élèves. Mmh.
Dans quel état d'esprit étaient vos enseignants, justement, pour cette rentrée ?
Alors, le lundi matin, très honnêtement, on sentait une vraie anxiété. C'était très lourd comme ressenti. Je crois que la journée pédagogique leur a fait vraiment du bien et je me dis qu'on a eu cette chance par rapport à d'autres de pouvoir avoir ce temps un petit peu de regroupement entre eux pour pouvoir évacuer l'anxiété ou en tout cas une partie de cette anxiété avant de pouvoir rejoindre leurs élèves le lendemain.
Alors justement, ils ont rejoint leurs élèves le lendemain, le mardi. Est-ce qu'on a abordé cette situation de la même manière, soit au primaire, soit au collège ou au lycée ?
Alors pas du tout. Évidemment, dans un ensemble scolaire comme le nôtre, nous avons deux chefs d'établissement, un chef d'établissement pour l'école et un chef d'établissement que je suis pour le collège et le lycée. Et il est évident qu'on ne peut pas parler de la même façon à des jeunes qui sont au collège de ce qui s'est passé et qui les touchent encore plus, puisque cela, pour Samuel Paty, avait eu lieu dans un collège, donc c'était pour eux encore plus parlant. Et on ne peut pas faire ça de la même façon avec des petits qui sont à l'école maternelle ou à l'école primaire. Néanmoins, on avait, avec ma collègue Madame Vial, donc chef d'établissement de l'école, préparé en amont un livret pour les enseignants, pour leur permettre de ne pas se sentir perdus, parce que chacun a sa sensibilité, chacun a sa façon d'être et de faire. Et on voulait qu'il y ait une certaine cohérence et cohésion. Et on voulait pas les lâcher comme ça avec des difficultés face à une classe. Donc on leur a donné matière à dire dans les différentes classes.
Alors l'actualité nous rejoint avec un nouveau protocole pour cette semaine, hein, pour les lycées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et les éventuelles problématiques que cela va poser pour vos lycéens et pour les enseignants,
l'organisation aussi.
L'organisation. Alors bon, ce protocole, il n'est pas encore totalement établi chez nous. D'ailleurs, nous étions en réunion, en visio ce matin, tous ensemble, les chefs d'établissement du lycée avec le directeur diocésain pour partager autour de ça. Nous avons effectivement, comme chacun, entendu au même moment, à la même heure, les annonces sur les médias faites par les autorités et le gouvernement. Et ensuite, c'est à nous de décliner dans nos établissements, autant que faire se peut, l'organisation prévue par le ministère. Donc nous attendons encore à ce jour le cadrage académique, ce qui est logique puisque tout est en descendant du ministère vers les établissements. Et nous sommes évidemment en réflexion, comme on l'a déjà été pendant l'été et début septembre, pour se dire, voilà, si jamais ça doit se passer, comment on fait. Donc la mise en route d'un protocole nouveau, d'un accueil qui soit à minima à 50% de présentiel dans les établissements, se fera selon la configuration même de l'établissement, et puis en même temps avec un maximum de précautions sur un cadrage qui est celui du ministère, quoi.
Est-ce que, suite au premier confinement, est-ce que vous avez tiré des conclusions ou aperçu comment ça s'est passé
Alors oui, ce qui nous est vraiment, pour nous, le plus important à mettre en œuvre, c'est un maximum de présentiel, parce qu'on se rend compte que, de toute façon, les jeunes, même s'ils sont quand même plus autonomes au lycée que partout ailleurs dans les classes, restent des jeunes, et que l'école, c'est quand même fait pour leur permettre d'avoir un accompagnement plus, et que l'accompagnement et la présence, le soutien au jour le jour d'un enseignant dans une classe est quand même beaucoup plus important que l'accompagnement tout bête en visio ou en autonomie.
Est-ce que chez vous, vous avez déjà vous pouvez nous dire quelle option vous allez prendre, ou c'est encore vraiment en réflexion ?
C'est encore en réflexion. Donc les options vont être probablement très différentes d'un niveau à l'autre, entre des classes de seconde et des classes de terminale. D'accord. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la préparation des épreuves du bac à prendre en compte.
Et est-ce que cela touchera aussi le collège ?
Non, logiquement non, si ce n'est dans une grosse particularité des établissements privés par rapport aux établissements publics, c'est que majoritairement nos professeurs de lycée sont aussi des professeurs sur le collège. Donc là, oui, ça va avoir un impact. Ça n'aura pas d'impact sur les élèves du collège. Personne ne le verra. Le seul impact, c'est la charge de travail qui va être multipliée par 2 ou par 3 pour les enseignants qui sont des enseignants ayant des heures à la fois sur le collège et sur le lycée.
Florence Lafontaine, merci beaucoup.
Oui, on était heureux de vous retrouver dans notre émission, puisque vous avez été animatrice pendant un certain temps.
Moi aussi, j'étais ravie de vous retrouver et... pas de problème pour un deuxième point, si nécessaire, sur cette situation extrêmement exceptionnelle.
Oui, un grand merci.
Bon courage, en tout cas.
Merci bien.
Voilà, une école pour la vie, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 4 semaines. Au revoir.